Il est 18h et vous écoutez France Inter. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord et comme chaque soir ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 30 mars avec le premier journal de la soirée, celui de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir par des silences et quelques confidences.
Salah Abdeslam interrogé aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Le principal accusé qui a d'abord choisi de se taire pendant 2 heures face à la cour. Un silence dont il a fini par sortir, notamment pour dire sa honte de ne pas avoir fait sauter sa ceinture d'explosifs. Compte rendu d'audience en direct dans un instant. Pas de dysfonctionnement grave à la prison d'Arles le jour de l'agression d'Ivan Colonna. L'essentiel, voilà les conclusions du directeur de l'établissement pénitentiaire. Interrogé aujourd'hui par la commission des lois, explication à suivre du service police-justice. À suivre aussi, le PDG d'Orpea auditionné lui par le Sénat promet d'améliorer le fonctionnement de ses EHPAD. Avec le conflit en Ukraine, l'Allemagne frappée par une inflation historique et un concert exceptionnel pour terminé, le musicien canadien Rufus Wainwright ce soir au Grand Rex à Paris.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir avec Andrei Kourkov, l'écrivain ukrainien le plus connu chez nous. On lui a parlé à plusieurs reprises depuis qu'il a dû quitter Kiev. On est heureux de l'avoir à Paris pour quelques temps et de savoir surtout comment il va, comment il est actif depuis le début de cette guerre. Il l'est, vous allez voir. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on écoute les bipolaires nous parler en cette journée mondiale de la bipolarité. Un trouble qui se soigne, même si c'est compliqué, que parfois on met du temps à diagnostiquer les bipolaires. Vous nous raconterez comment vous l'apprivoisez, votre trouble, comment il est perçu peut-être par les autres et ce que vous faites pour aller bien si vous en parlez autour de vous, parce que derrière il y a toujours le tabou des maladies mentales. À vos téléphones au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une audience très singulière, Sébastien, qui a eu lieu aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
Oui, la cour d'assises spéciale de Paris comptait beaucoup sur cette journée avec l'interrogatoire du principal accusé, Salah Abdeslam, très attendu depuis hier, depuis que son meilleur ami, Mohamed Abrini, avait expliqué que c'est lui, Abrini, qui était prévu dans le dispositif du 13 novembre, avant d'être remplacé ensuite par Salah Abdeslam. Une façon de dédouaner le seul survivant des commandos. Alors, qu'allait répondre Abdeslam? L'audience a commencé à la mi-journée. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
En direct du Palais de Justice de Paris. Et là, l'accusé a d'abord décidé d'exercer son droit au silence.
Exactement, dans son box, Salah Abdeslam se lève, t-shirt manche courte qui laisse apparaître ses bras musclés, il ôte son masque noir qui cachait sa barbe fournie et déclare d'une petite voix un peu sur un ton de vedette, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite faire usage de mon droit au silence. Soupir immédiat sur les bancs des parties civiles, des familles endeuillées, des rescapés se tiennent en rang serré, certains se prennent la tête entre les mains. C'était pas du tout prévu, commente le Président de la Cour, c'est votre droit, mais je me permets d'insister pour tout le monde. Moi aussi, j'insiste, Monsieur le Président, rétorque Abdeslam qui se rassied et se met à regarder droit devant lui. Il se détourne même de la cour et répond par un silence assourdissant à toutes les questions, des dizaines de questions des magistrats puis des avocats. Abdeslam est obstinément muet. Puis, au bout de 2 heures, une avocate de victime, Maître Josserand Schmitt, à qui il a souvent répondu depuis le début du procès, tente de le prendre par les sentiments. Elle lui parle du 10 novembre 2015, quand Abdeslam a pleuré devant sa fiancée. On voulait vous demander si c'était le signe d'un tiraillement intérieur. Est-ce que ces pleurs, ça marque une hésitation avant d'enfiler votre gilet explosif. On voulait vous demander aussi si ça n'avait pas été une ceinture mais une kalachnikov, est-ce que vous auriez renoncé à donner la mort? Et face à cette avocate, dans un moment suspendu, Abdeslam affirme qu'il a bien renoncé à déclencher son gilet, que ce n'était pas un défaut technique comme il l'avait d'abord affirmé. Ce qu'il avait honte d'avouer à ses amis, c'est sa version ce soir. Puis Abdeslam s'est refermé à nouveau dans son mutisme.
Sophie Parmentier avec Julien Girard en direct du Palais de Justice de Paris.
Quand un directeur de prison s'est en larmes face à des députés.
Le directeur de la prison d'Arles, submergé par l'émotion ce matin alors qu'il était interrogé par la commission des lois de l'Assemblée sur les conditions de l'agression d'Ivan Colonna en prison le 2 mars dernier par le détenu Franck Elongabé. Pendant près de 3 heures, Marc Ollier et l'ancienne directrice de la prison se sont retrouvés sous le feu des questions des élus. Une audition très intense. Bonsoir Sophie Constanzer.
Bonsoir Sébastien.
Mais sur le fond, la même réponse, pas d'erreur de gestion de l'administration pénitentiaire ce jour-là.
Ce matin-là, quand
Yvan Colonna est en train de faire ses pompes et que Franck Elongabé arrive pour nettoyer la petite salle de sport, eh bien l'agent pénitentiaire présent a 15 salles d'activité à surveiller, presque autant de détenus. Dans cette aile du bâtiment A de la prison, qui fait une trentaine de mètres, il y a en même temps 3 DPS, 3 détenus particulièrement signalés, dont Yvan Colonna et Franck Elongabé. Rien d'étonnant, selon l'ancienne directrice de la maison centrale d'Arles. Impossible de mettre un agent derrière chaque DPS. Et Corinne Puglierini précise, rien d'étonnant à ce que les deux hommes se retrouvent ensemble.
Monsieur Elongabé aurait très bien pu, ce jour-là, être pratiquant, faire son sport et non pas avoir sa casquette d'auxiliaire sport à ce moment-là. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'aurait pas été avec Monsieur Colonna dans cette salle de sport. Parce qu'une mesure de séparation, elle aurait eu du sens si on avait eu le moindre indice, le moindre doute sur une difficulté entre ces deux personnes, mais ce qui n'était absolument pas le cas.
Il y avait 2 caméras dans la salle où Yvan Colonna était agressé. Sur une éventuelle défaillance technique, l'actuel directeur de la centrale d'Arles répond non. Une opération de maintenance a bien eu lieu sur le système de vidéosurveillance le matin de l'agression, mais la coupure a duré entre 1 et 2 minutes seulement. 280 caméras au total dans la prison d'Arles et dans le bâtiment A, un agent seul pour surveiller les images. Alors vous imaginez peut-être, comme les députés, un mur de caméras, mais le chef d'établissement décrit un écran d'ordinateur sur lequel défilent les images de 48 caméras. Selon un scénario, aucune raison de fixer celle de la salle de sport. Le directeur de la centrale d'Arles écarte ainsi la défaillance humaine et conclut devant les députés, s'il faut revoir le système, il faut plus de budget.
Sophie Constanzer, une autre audition, cette fois-ci devant le Sénat, beaucoup plus policée, celle du PDG d'Orpea, interrogé sur le scandale révélé par le livre enquête de Victor Castanet. Contrairement à l'audition peu préparée, très tendue face aux députés, là le patron du groupe Orpea, Philippe Charrier, a tenté d'offrir quelques réponses aux élus. Pas de grandes révélations sur les dysfonctionnements pointés par le rapport de l'administration, mais Anne Orenstein, des promesses.
Oui, le but, redonner confiance aux familles, aux résidents, aux pouvoirs publics et aux actionnaires. Et cela, le PDG Philippe Charrier a bien conscience que ça ne va pas être simple.
Je mesure parfaitement le chemin qu'il nous reste à parcourir pour redonner confiance en notre groupe. Cela passera par des efforts, des explications, des réformes, mais aussi par de l'innovation et de l'initiative.
Philippe Charrier annonce donc un plan en 2 parties. D'abord, un effort de décentralisation, puisque c'est un des gros reproches qui est fait par l'IGAS. Le PDG d'Orpea promet qu'il va redonner plus d'autonomie aux directeurs d'établissement et aux équipes, un chantier prioritaire selon lui. Pour améliorer les relations avec les familles, il propose l'instauration de médiateurs, la mise en place d'un numéro vert et l'amélioration de la plateforme d'alerte d'Orpea. Visiblement, elle est passée à côté d'un certain nombre de dysfonctionnements. Autre annonce, l'ouverture des portes des établissements Orpea. Une journée d'états généraux du grand âge sera organisée en mai avec un grand débat, précise Philippe Charrier.
Je m'engage à ce que ce grand débat ait lieu partout en France et soit suivi d'un compte-rendu, d'une synthèse de propositions concrètes dont tous les participants seront destinataires, ainsi que la représentation nationale.
Et oui, une sorte de livre blanc des EHPAD privés lucratifs. Pour rebondir, Orpea se propose donc de se réinventer en chevalier blanc du secteur.
Anne Orenstein, ajoutons qu'Orpea n'a toujours pas porté plainte pour diffamation contre Victor Castanet.
Et à 18h08, Sébastien, on en vient au conflit en Ukraine avec ce changement de ton très net côté russe.
Les Russes qui parlaient hier de procès, de progrès substantiels lors des pourparlers avec les Ukrainiens à Istanbul et qui finalement ne voient rien de très prometteur, ni aucune avancée dans les propositions de Kiev. Sur le terrain d'ailleurs, la ville de Tchernikiv, qui aurait dû être épargnée, a été bombardée toute la nuit selon les autorités régionales. Les Ukrainiens qui accusent également l'armée russe d'avoir bombardé un centre de la Croix-Rouge à Mariupol. Espoir diplomatique vite douché donc, et des conséquences économiques qui elles se poursuivent, notamment en Europe où l'inflation flambe, plus 10% en Espagne, un record depuis 37 ans. Chiffre record aussi en Allemagne, plus 7% d'inflation du jamais vu depuis 1981. Les précisions d'Hugo Flotta-Talon à Bonn.
Gaz, produits pétroliers, les prix de l'énergie sont en grande partie responsables de l'inflation. Ils ont bondi de 40% sur un an. Hausse aussi du prix des céréales et donc des productions agricoles. Mais ce n'est pas tout. Les effets de la pandémie de Covid-19 sont encore là, accentués par le conflit et les sanctions contre la Russie. L'industrie ou le bâtiment, par exemple, souffre toujours de pénurie de matières premières, ce qui fait encore augmenter les prix. Cela a des répercussions directes sur le quotidien des Allemands. À la pompe, évidemment, mais aussi dans les magasins, les prix de la nourriture augmentent de 6%, du jamais vu depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 1980. Et ça ne devrait pas s'arranger. Tout secteur confondu, plus de la moitié des entreprises allemandes prévoient d'augmenter leurs prix dans les 3 prochains mois. L'inflation pourrait être de plus de 6% sur l'année. La baisse des taxes à la pompe et une prime de 300 euros par salarié décidée récemment par le gouvernement pourraient ne pas suffire à couvrir les hausses. Le moral et l'envie de consommation des Allemands sont d'ailleurs au plus bas niveau depuis 2009. Bonne, Hugo Flotatalon, France Inter.
La campagne présidentielle en France. Les électeurs positifs au Covid pourront aller voter les 10 et 24 avril prochains. Déclaration du porte-parole du gouvernement qui leur recommande de porter un masque. C'est un appel, je cite, à la responsabilité individuelle. Côté candidat, au moment où plusieurs d'entre eux passaient leur grand oral face à la FNSEA, Yannick Jadot, lui, tentait d'incarner ses idées sur le terrain. Le candidat écologiste s'est rendu aujourd'hui dans une petite commune de l'Oise, à Margny-sur-Matz, aujourd'hui pour parler désertification médicale et services publics, avec l'objectif, Victoria Coussa, de disséminer à 11 jours de premier tour son programme pour le monde rural.
Attentif à tout pour la dernière ligne droite, dans l'herbe fraîche, Yannick Jadot tente de casser son image de candidat de la ville.
C'est les poules de Madame Paul.
Les poules de Madame Paul.
Les poules de race.
C'est vrai, ça se voit, hein. C'est super. Non.
Sauf que cette fois, l'écologiste ne parle pas d'agriculture, mais de désertification médicale. Avec la visite d'un centre de santé tout neuf, mais toujours vide, aucun médecin ne veut s'y installer.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution à ce problème, s'il y a une solution, parce que c'est pas évident?
Eh bien, nous assumons à ce qui est l'installation obligatoire des médecins pendant leurs 3 premières années. Dernière année d'enseignement, plus les 2 premières années d'activité, parce qu'on a 10% de la population française qui n'a plus accès à un médecin de proximité. C'est un énorme problème de santé.
Pour attirer des professionnels de santé, redynamiser les centres-bourgs et limiter l'utilisation de la voiture, le candidat propose plus d'aide pour la création de commerces. Il déjeune d'ailleurs avec son équipe et des militants dans le seul lieu de vie du village, une petite auberge au bord d'une départementale.
Bon, moi j'ai un peu faim, ouais.
L'épreuve que l'heure n'est pas encore au vert, ici à la carte, aucun plat n'est végétarien.
Voilà, Yannick Jadot qui s'est donc fait excuser, on le disait, devant la FNSEA aujourd'hui, contrairement à Jean Lassalle, qui lui ne s'est pas privé de faire une déclaration d'amour à l'agriculture. La France est encore, je cite, un grand jardin à la Le Nôtre. Jean Lassalle qui propose de retirer 3 des 26 milliards d'euros de la contribution française au budget européen pour les allouer aux campagnes françaises dont il veut faire une grande cause nationale.
Et puis Sébastien, on termine avec l'une des plus belles et des plus prolifiques voix de la pop.
J'ai nommé Rufus Wainwright, auteur de musique de film, de théâtre, ce musicien canadien qui a aussi composé 2 opéras. Il sera un concert exceptionnel ce soir au Grand Rex et Mathieu Culeron l'a rencontré avant son concert.
Après maintes annulations, Rufus Wainwright sera bien sur la scène du Grand Rex ce soir, avec ses compositions bien sûr, mais aussi l'envie d'explorer toutes les musiques qui l'ont fait vibrer, de Berlioz à Brel, en passant par Leonard Cohen.
À l'origine, le titre de la tournée était All I Want, en référence à la chanson de Joni Mitchell. Et c'était ça le sujet de ses concerts, tout ce que je veux chanter. Un peu d'opéra, un peu de Broadway, là où travaillaient mes parents, tout ce que je veux faire, quoi. All I Want.
Rufus Wainwright, passé par le conservatoire, qui n'a jamais cessé d'accumuler sa passion pour la chanson, le rock et la musique classique.
Quand j'étais adolescent, ceux qui m'intéressaient écoutaient du punk rock. Ils écoutaient Sonic Youth ou Kurt Cobain. Et je crois qu'il y a une similarité entre l'opéra et le grunge. Les deux parlent d'une vie intense entre amour et mort.
Rufus Wainwright en concert ce soir à Paris. Un show pensé comme une véritable comédie musicale.
Voilà, concert au Grand Rex de Rufus Wainwright ce soir, avec la sortie l'an dernier de 2 albums, Unfollow the Rules et un album live.
Les chanceux qui y vont, Sébastien Nogedi, merci beaucoup. À tout de suite dans Un jour dans le monde. Vous nous expliquerez par exemple que les Anglais vivent dans la préparation au cas où de la mort de la reine. On croise quand même les doigts pour conjurer le sort. Ce soir, notre invité, c'est Andriy Kourkov, l'écrivain ukrainien. Il est en France pour quelques jours, on est ravis d'en profiter. Bien sûr, il y a les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet qui sont toujours là. Et puis à 19h20, le téléphone sonne, on y tient beaucoup. On va parler bipolarité. C'est la journée mondiale de la bipolarité ce 30 mars, jour de l'anniversaire de Van Gogh d'ailleurs. Et on aimerait bien que vous nous racontiez comment on vit avec des troubles bipolaires. Pourquoi ça n'est pas une fatalité, ça se gère, ça se traite. Mais évidemment, rien n'est simple. On vous attend avec plaisir au 01 45 24 7000.